Félix Fénéon, Les Ventres. Un assourdissant vacarme emplissait cette petite bourgade savoyarde. Temps lugubre et froid, ciel gris de nuages, terre grise de neige piétinée et boueuse. La nature était triste parce qu'on était en février, les hommes gais parce qu'on était en carnaval. De tout le territoire ambiant, les campagnards étaient accourus au village, bien décidés à prendre leur revanche des stagnantes tristesses de l'hiver. Et c'était des cris, des danses, des gesticulations. Seuls, deux hommes se montraient réfractaires à ces joyeusetés carnavalesques. De temps en temps, ils poussaient une porte et entraient. Pour s'attabler en face de 4 ou 5 mètres de boudin grillé, non. Leur station à l'intérieur de ces maisons était courte. Leur sortie coïncidait presque avec leur entrée. 8 ou 10 fois, ils disparurent ainsi, vite reparus. Et leur mine atone et morne détonnait dans la joie générale. Ils fendaient la foule avec une sombre placidité. La foule ne les remarquait pas. Aucune interpellation ne les accrochait au passage. Personne ne paraissait les connaître. Évidemment, ces hommes n'étaient pas du pays. L'unique rue de la bourgade était pleine et grouillante, et les auberges regorgeaient de chalands. Surtout le cabaret du maire, Montmarançon-Baleinier, était envahi par une multitude hurlante et assoiffée. Haut en couleur et en verbe, bien en chair, un énorme rire éclaboussait sur la face, le magistrat cabaretier, le bedon ceint non pas de l'écharpe tricolore, mais du tablier blanc, circulait à travers les tables, débouchant les bouteilles, allumant les ponches, donnant même dans la soûlerie grandissante de graves consultations administratives, et versant dans les saladiers à galbes de pot de chambre le vin bouillant où chavirent les disques de citron. Encouragé sans doute par sa mine avenante, tête nue, l'un parce qu'il avait son chapeau à la main, l'autre parce qu'il n'avait pas de chapeau, les deux rôdeurs s'approchèrent de M. Montmarançon-Baleinier. L'échine un peu courbée, humble, ils lui parlèrent à voix basse. Le cabaretier grommela. Les hommes s'éloignèrent. Ils s'enfoncèrent dans la foule. Et celui qui n'avait pas de chapeau avait un cache-nez. Ce cache-nez était rouge. Il était en laine tricotée et devait être très chaud. Cette tache rouge, éclatante, disparut aussi. Chapitre 2. L'une des extrémités de la rue, celle qui regardait la forêt, était presque obstruée par un bal que protégeait une palissade quadrangulaire et une tenture de bâche. Là, une musique tempétueuse emportait dans son tourbillon plusieurs douzaines de couples, très solidement enlacés, exaltés par la frénésie du bruit, du mouvement, du vin. Sur le pourtour, une rangée de tables bordées de buveurs faisait une galerie. Parfois, projetée horizontalement par la fougue du mouvement giratoire, une jupe de paysanne allait enlever sur les tables et faisait rouler dans les jambes des danseurs une bouteille mi-pleine ou un enfant oublié et vagissant, quille et perdu. De là, des chutes. Des rotondités féminines se trouvaient soudain en contact avec le plancher. De là, des rires. À pleines lèvres, les danseurs lampaient des brocs de vin et embrassaient leurs danseuses, point farouches. Celles-ci ne semblait pas se soucier de justifier l'opinion de Sand sur la suavité des mœurs campagnardes. Elle s'en donnait à cœur joie. De temps en temps, un couple désireux de s'adonner à d'autres exercices se retirait discret. Et les cuivres rugissaient comme une bande de fauves affamés. Tout à coup, le souffle et les jambes manquèrent aux musiciens et aux danseurs. Pareils à des bolides, deux hommes faisaient irruption dans le bal. Stupéfaits de se trouver inopinément au centre de cette trépignante foule, ils hésitèrent une seconde. Mais derrière eux, dans une poussée furieuse, avec des hurlements de colère et d'indignation, était entrée une cohue de paysans. Les deux hommes s'élancèrent vers l'issue opposée et disparurent, entraînant après eux les poursuivants et tous les danseurs. En un clin d'œil, il n'y eut plus dans le bal que les instruments de musique, étonnés de redevenir muets. La rue fut secouée d'un tumultueux piétinement de souliers ferrés, se hâtant vers un but encore inconnu. Puis, le silence s'établit. Le village était désert. Quelques douzaines d'indigènes, ivres, anéantis dans une torpide immobilité, restaient seuls, derniers échantillons d'une population évanouie. Alors, les bœufs traîneurs des chariots à masque et les chevaux de labour sur lesquels venait de cavalcader la jeunesse dorée s'arrêtèrent, tenant conseil. Un âne poussa un braiement triomphal. Il venait de découvrir une meule de foin et un sac d'avoine éventré. D'un sabot joyeux, il courut à cette pitance. Les autres bêtes le suivirent. Les mufles, les groins, les becs, les museaux s'enfoncèrent dans la meule et dans le sac. Les bêtes mangeaient. Chapitre 3. Massé entre le Rhône et la forêt, le village était séparé de celle-ci par 8 hectomètres d'un terrain pentueux. Sur cette nappe de neige se continua la chasse commencée dans la rue. Gibier, les deux hommes du commencement de cette impartiale histoire. Chasseurs, 600 individus de tous les sexes et de tous les âges, grotesquement accoutrés, férocement ardents, et des chiens. Cris, aboiements. Les deux hommes s'efforçaient d'atteindre la forêt. Ils perdaient du terrain. Les crevasses du sol et les obstacles dissimulés sous la neige les faisaient trébucher. Les chiens accéléraient leurs bonds. Les fugitifs allaient être pris. L'un d'eux s'affaiblissait d'une façon manifeste, chancelait, courait cependant. Deux ou trois fois, il faillit choir. Des gueules annelaient sur ses talons. Alors, il jeta derrière lui un assez volumineux objet pressé jusque-là sur sa poitrine, un morceau de lard. La meute, abandonnant la poursuite, bondit sur cette proie facile, tandis que les chiens mangeaient, continuait la course. Soudain, l'homme qui venait d'abandonner le bloc de viande s'enfonça dans le bois. Il était libre. Sous le heurt de 100 mains lourdes comme des grappins d'abordage, l'autre s'arrêta. Il était prisonnier. Des clameurs de désappointement et de joie saluèrent cette disparition et cette capture. Puis il y eut un répit. Agglomérés autour du prisonnier, les villageois soufflaient bruyamment, se frettaient le ventre pour atténuer l'engorgement de la rate, essuyaient leurs visages cramoisis. Dans ce moment de calme relatif, au milieu de la buée que l'air glacial dégageait de leurs corps en sueur, ils semblaient, vivants encensoirs, remercier le ciel d'avoir donné à l'honnêteté repue des jambes véloces pour atteindre les malfaiteurs à jeun. La parole revenait, la colère renaissait.
« Voleur !»
cria une belle fille de 16 ans, dont la gorge battait encore une marche forcenée.
« Où est mon pain ?»
glapit une voix aigre et anxieuse.
« Dis, bandit, qu'as-tu fait de mon pain ?»
et un petit homme tordu, au teint huileux et violâtre, à l'œil gris, vint secouer le captif râlant et blêmissant.
« Garrottons-le »
cria-t-on.
« Allons, les mains !»
L'homme tendit les mains. Alors un pain qu'il dissimulait sous son bourgeron tomba dans la neige.
« Retrouvé !»
clama le villageois violâtre en ramassant la miche dorée. Le cache-nez rouge du prisonnier servit à ligoter ses poignets et l'on se mit en route vers le village.
« Hola !»
cria une voix derrière la troupe. Tous se retournèrent. L'homme qui leur avait échappé tout à l'heure saillait de la forêt et marchait à grands pas dans leur direction.
« Je me rends, » continua-t-il. « Emmenez-moi avec mon compagnon. »
Il se plaça au centre de l'escorte. On repartit. En route, on rencontra M. Montmarançon-Baleinier, qui avait été dépassé par tous ses féaux sujets dès les premiers pas de la poursuite, l'obésité étant l'ennemi de la vitesse.
« Qu'on emmène chez moi, c'est drôle !» commanda ce vaste magistrat. « Je les jugerai !»
Chapitre 4. Quelques instants après, le village avait recouvré son peuple. Regagné le temps que venait de faire perdre cet intermède, tel fut le programme tacitement adopté à l'unanimité. Le diapason du tapage avait trouvé moyen de s'élever encore. Les danseurs devenaient des singuis. On buvait maintenant à même les tonneaux. Les bouteilles n'étaient plus que des projectiles. Sur quelques points éclataient des rixes acharnées, et tandis que les uns se rouaient de coups et se mangeaient le nez, les autres, plus experts aux choses de la nutrition, préféraient manger jusqu'à étouffement définitif jambon, fromage, oie, quartier de bœuf, riz au lait caramélé, harengsor, purée de châtaigne, amoncelant dans leurs estomacs transformés en magasins de provisions les victuailles les plus disparates. C'était tout à fait pastoral. Le quartier général de cette orgie de bon goût était le cabaret de M. Montmarançon-Baleinier. On y étouffait, dans une atmosphère où se mariaient civilement les senteurs bocagères des brûle-gueules, du 3-6, de la graisse brûlée, ainsi que d'autres émanations charmeresses de nerfs olfactifs. La cour de l'auberge était remplie de gens qui n'avaient pu trouver place à l'intérieur. Installés devant des tables improvisées, goulûment, ils baffraient. Dans la chaudière estomac, les viandes et les vins sont de bons combustibles. Aussi ne souffraient-ils pas du froid, qui cependant était vif. Dans un coin de la cour, un lourd char à bancs. À l'une des roues étaient liés par les jarrets, les mains et le cou, un homme presque inanimé et bleu. À l'autre roue, un autre homme, presque inanimé et bleu, était attaché de la même manière. Depuis plus de 3 heures, ils attendaient le jugement. On s'était d'abord ameuté autour d'eux, ils avaient été insultés, puis on les avait oubliés. D'ailleurs, Maître Montmarançon-Baleinier n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Ils restaient là, immobiles. Chapitre 5. Quand il fut patent que la plupart de ses hôtes étaient désormais dans l'impossibilité d'ingurgiter quoi que ce fût, M. Montmarançon-Baleinier respira.
« Ouf !» fit-il.
Mais il se souvint que, pour être cabaretier, il n'en était pas moins magistrat. Il sortit donc et se dirigea vers le char. Entouré d'une vingtaine d'individus qui voulaient concourir par leur présence à la majesté de l'acte qui allait s'accomplir, il ordonna de délier les deux prisonniers. Quand ils furent enfin, longue avait été l'opération, déliés et adossés au mur,
« Vagabond !»
commença le magistrat municipal.
Un murmure approbateur courut parmi les assistants, dont le groupe s'accroissait.
« Vagabond, vous êtes venu porter le trouble au sein d'une population paisible, au risque de la corrompre par l'exemple de votre conduite. »
Plusieurs ivrognes, émus du danger moral qu'ils avaient couru, fondirent en larmes.
« Reconnaissez-vous avoir dérobé une tranche de lard de premier choix et un pain d'une couple de livres à la devanture du magasin de mon administré M. Rachien, boulanger, marchand de salaison, maréchal Ferrand et ancien marguillier ?»«
Oui. » La foule tressaillit d'horreur.
« Pourquoi ?»«
Nous venons de loin. Nous avons marché longtemps. Depuis 2 jours, nous n'avons pas mangé. Nous avons demandé l'aumône. On ne nous a rien donné nulle part. Nous avions faim. Nous avons faim encore. »«
Pourquoi avez-vous faim ?»
Les accusés ne répondirent pas.
« Votre silence vous accuse. Qui êtes-vous ? » ?»«
Des ouvriers. » »«
Alors, vous avez de l'argent ? » ?»«
Nous n'avons pas de travail. » »«
Prenez garde. Vous cherchez à entraver les investigations de la justice. » »«
Non. » »«
Vous ne connaissez pas encore l'étendue de votre méfait. Le pain que vous avez volé à Claude Rachien, ici présent, a été sauvé. » »«
Mais hélas, le lard... » Nos chiens l'ont dévoré. Heureux chiens, pensèrent les deux affamés.
Votre action mérite un châtiment.
Un châtiment exemplaire,
gémit Claude Rachien.
Je pourrais vous faire conduire au chef-lieu du canton et vous livrer à la gendarmerie à cheval, gardienne de la propriété.
Mais
rendez grâces à Dieu.
À cet endroit de l'interrogatoire, l'un des accusés s'affaissa au pied du mur, veulent, anéanti.
« Vos contorsions ne nous en imposeront pas. Pierre Cragnard, prends une bouteille de mare et fais-la lui respirer.
Mon eau de vie est d'excellente qualité et, certes, je puis me vanter de la livrer à un prix exceptionnel. Sur ce point, comme sur tous les autres, aucun débitant de la commune ne peut rivaliser avec moi.
Sous le nez, te dis-je. « Prends garde d'en verser dans sa bouche. Il ne faut pas encourager l'ivrognerie. »
L'homme revint à lui. De nouveau, il fut dressé contre le mur.
« Oui, rendez grâces à Dieu. Nous sommes justes, mais nous sommes cléments. »«
C'est vrai !»
interrompit un paysan qui vomissait à l'écart.
« Mes chers concitoyens, mes amis !» continua M. Montmarançon-Valaignier,
avec, dans la voix, les larmes d'un auguste attendrissement.
Serait-il pas beau de clore cette journée par un acte de pardon généreux ?
Une lueur d'espérance s'alluma dans les yeux des deux misérables. « On va nous donner à manger, » pensèrent-ils.
« Guillaume, fouille-moi ces malfaiteurs. »
Les deux malfaiteurs, n'ayant pas beaucoup d'habits, n'avaient pas beaucoup de poches. La perquisition fut vite opérée et Guillaume déposa sur une table les objets suivants. Un couteau, une pièce d'un sou.
« Vous déclarez, »
interrogea le magistrat,
« n'avoir plus rien sur vous. »«
Rien. »
« François, fouille-les toi aussi. »
François ne trouva rien. M. Montmarançon-Baleinier donna du champ à son geste.
« Ces deux criminels vont être mis en liberté, » dit-il. « Mais si la justice abdique ses droits, il est du moins nécessaire que la partie lésée, j'ai nommé M. Claude Rachien, reçoive une légitime compensation. Le pain volé a été restitué et, quoi qu'il porte des traces dedans, nous n'en parlerons plus. Mais nos chiens, je l'ai dit et je le répète, on mangeait le lard. La victime doit être indemnisée, car ses intérêts ne sauraient être compromis par notre œuvre de pardon. Claude Rachien, ce couteau, ce sou et ce cache-nez sont à toi. Et vous, mes amis, conduisez hors de la localité ces dangereux rôdeurs et qu'ils s'en aillent.
Patron !
criaient de l'intérieur des voix impatientes.
« Du vin ! On crève de soif ici ! On y va !»
Chapitre 6. Flageolant sur leurs jambes, ivres de faim, ils furent conduits au-delà des dernières maisons. La nuit et la neige tombaient. Un vent de l'est commençait à souffler en bourrasque. Les deux hommes avaient devant eux les bois, les monts, le froid, l'ombre. Ils s'éloignèrent, traînant dans la neige leur lamentable semelle.